France Musique.
Mendelssohn, ce pic d'aquarelle, c'est comme si vous y étiez. Il pensait pourtant que l'envie allait lui passer. Qu'avec ses activités l'occupant du matin au soir, elle allait vraiment passer au second plan. Et voilà que non. Il y a à peine 2 mois qu'il est arrivé à Leipzig et déjà l'envie le reprend. Une envie qui le tenaille quasiment depuis qu'il est enfant. Cette envie est une passion. Elle aurait même pu être son métier principal si la musique n'avait pris le dessus. C'est qu'il était si doué. Il l'est toujours d'ailleurs. Il n'a rien perdu de son talent, de son savoir-faire, de son œil et de la sûreté de son trait. Alors, le soir venu, installé dans le fauteuil de son salon, dans l'appartement de Leipzig où il a élu domicile, il repense à ce qu'il a vu dans la journée, quand il a couru d'un point à l'autre de la ville entre 2 répétitions. Il y repense. Et il ferme les yeux dans un état de quasi-rêverie. Puis lentement, il sort son carnet. En sortant de la salle de concert du Gewandhaus, où il passe le plus clair de son temps, Mendelssohn a repéré une jolie maison au numéro 12 de la Königstrasse. Une maison sur 3 étages, de style assez classique, plantée dans une rue qui offre une superbe perspective. Pas mal, comme idée de dessin. Et puis, bien sûr, l'église Saint-Thomas, celle de son cher Jean-Sébastien Bach, qui arpentait les rues de la ville et dont l'ombre plane toujours. Mendelssohn aime beaucoup admirer l'église Saint-Thomas depuis la petite rue de la Thomasgasse. Ce soir, après cette journée harassante, c'est elle qu'il va dessiner sur un des feuillets de son carnet, au fusain. Jamais trop tard pour dessiner, se dit-il. Jamais trop tard pour se vider l'esprit, se sentir apaisé. Il a fait ça si souvent par le passé, lui, le surdoué, le suractif, si propice à s'emballer, à s'agiter, à s'exaspérer, qu'il a souvent été à 2 doigts de la crise nerveuse. Dans ses dessins, le trait de Mendelssohn est sûr, précis. Pas d'une grande imagination ni d'une grande originalité, certes, mais quelque chose de très classique et très défini dans la restitution des volumes et de l'architecture. Pas de rigidité géométrique, plutôt des charpentes bien affirmées sur lesquelles ses couleurs, souvent naïves, viennent apporter de la joie et de la lumière. Un peu comme dans sa musique d'ailleurs, où son orchestre s'est enrobé les mélodies, les harmonies, leur donner ce quelque chose de transparent, de vaporeux. quand Mendelssohn a-t-il commencé à dessiner précisément? Il ne sait plus trop, il a oublié, même s'il n'a que 26 ans. Félix Mendelssohn aime la peinture et le dessin depuis qu'il est tout petit. Il a appris tellement de choses, enfant. Dès 5 heures du matin, avec toute la fratrie, l'étude commençait. Et rien n'était négligé. Équitation, danse, langues anciennes, mathématiques, philologie, droit, histoire-géographie, zoologie, philosophie de l'art. Sans oublier le piano, l'orgue et la composition, bien sûr, qu'il a étudié tout en engrangeant cette culture encyclopédique. Et au milieu de tout ça, la peinture et le dessin au pastel, où il a manifesté des dons exceptionnels, révélés par l'enseignement du paysagiste Samuel Rosel. En fait, le petit Félix était doué pour tout, tout simplement. L'enfant sublime, avait même dit un jour Goethe. Les dons du génie étaient unis chez lui à l'éducation la plus raffinée, la tendresse du cœur à la subtilité de l'intelligence, une aisance incroyable dans l'achèvement de toutes ses entreprises, à l'énergie indomptable qu'il mettait dans l'accomplissement d'une tâche difficile, dira son ami Ferdinand Hiller. Pour Mendelssohn, l'aquarelle est un jardin intime. Mais à un niveau différent du piano et de la composition, évidemment. Car il sait que personne ne l'attend sur ce plan-là, qu'il ne sera pas jugé ni critiqué. Il a horreur des critiques. S'il éprouve une passion viscérale pour la peinture, c'est que les lignes et les couleurs restent proches de ce qu'il ressent en musique, lui, le peintre des sons. Nous sommes à Leipzig, au début de l'automne 1835. Mendelssohn a été nommé directeur musical de la ville et chef du Gewandhaus, où il doit diriger une vingtaine de concerts en 6 mois, les 6 autres mois de l'année, étant employé en voyage et en temps propice à la création. Au Gewandhaus, il veut diriger et faire aimer tout le répertoire, avec une prédilection pour Beethoven et Mozart, piliers de ses programmes. Mais Bach n'est jamais loin. Il adore son concerto en ré mineur pour 3 claviers, qu'il joue notamment avec Clara Schumann. Tu ne peux te figurer de quelle somme de travail je suis accablé, écrit-il à l'un de ses amis. Car en plus de jouer, de programmer les concerts et de les diriger, Mendelssohn reçoit des disciples venus des 4 coins de l'Europe. Ses conseils de pédagogue sont très précieux. Alors, pour calmer cette frénésie, il peint, dessine et rencontre des personnalités qui élargissent son horizon artistique, comme Carl Gustav Carus, médecin, philosophe et peintre surtout, disciple du grand Caspar Friedrich. Ce Carus a écrit les 9 lettres sur la peinture des paysages qui éclairent l'idée d'une nature sublime. Il y explique que le recueillement donne à l'homme l'impression de se perdre dans l'infini. Tu sens le calme limpide et la pureté envahir ton être. Tu oublies ton moi, tu n'es rien, Dieu est tout. Comme en écho à cette phrase de Caspar Friedrich, le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu'il voit en face de lui, mais aussi ce qu'il voit en lui. Mendelssohn connaît ses écrits et il les ressent au plus profond de lui. Mais quel miracle de pouvoir échanger avec ce Carus. En fait, Mendelssohn n'aime rien tant que contempler les paysages et les peindre. Il vénère les grands paysagistes comme Joseph Vernet, dont il a rencontré un descendant en Italie lors d'un de ses voyages. Car si la peinture hante Mendelssohn, au moment de son arrivée à Leipzig, ce sont tous ces voyages qui, année après année, ont renforcé son goût pour le pastel et le dessin. L'Italie, en premier lieu. C'est 6 ans plus tôt, soit en 1830, que Mendelssohn a entamé son premier grand voyage européen. Ce qui a été pour moi, depuis l'âge de raison, le plus beau rêve de ma vie, se réalise enfin, écrit-il à ses parents depuis l'Italie. La découverte des villes et des campagnes se mêle à celle des musées, Florence, Bologne, Venise, il dévore tout et il enchaîne les croquis. Parfois rapidement mis en couleur. À Florence, le Duomo, le campanile de Giotto, le Palazzo Vecchio. À Venise, le pont des soupirs, resté en noir et blanc, et qui dénote un sens très sûr de la perspective. On laisse derrière soi les montagnes bleues, écrit-il à l'été 1830. Les rayons d'un soleil resplendissant et chaud se jouent à travers le feuillage de la vigne, et la route passe entre les vergers, dont chaque arbre est relié à son voisin par des pampres. Enfin, Rome est au programme, un long programme, car lors de son premier séjour romain, il y reste presque 6 mois. Le baron Christian von Bunsen, diplomate prussien très influent, lui ouvre toutes les portes. Grâce à lui, il rencontre des peintres allemands. Ceux, luthériens, établis au Capitole, les autres, catholiques, sur le Pincio. Je passe la plupart de mes soirées avec Bandmann et Hübner, chez qui les artistes allemands se réunissent. Je vais aussi quelquefois chez Schadau, écrit-il. Bref, il ne me manque aucune connaissance. Seulement, j'aimerais rencontrer aussi des peintres italiens. Félix Schadau, Julius Hübner, Edouard Bandmann. Ce sont des peintres allemands, des représentants de l'école de Düsseldorf, qui excellent dans le paysage et la peinture de genre. Mendelssohn fortifie ses goûts à leur contact et découvre à leur côté les sites et la campagne romaine et tout ce qu'ils en tirent. Personnellement, il préfère de très loin les vestiges antiques et la pureté de Raphaël, de Giorgione, du Titien. Les effets trop baroques de Bernin ou du Caravage ne sont pas de son goût. Quant à la musique, c'est l'horreur. Les orchestres sont au-dessous de tout ce qu'on peut imaginer. Les chanteurs du pape deviennent vieux. La plupart d'entre eux ne sont même pas musiciens. Non, en Italie, rien ne vaut la peinture et les splendeurs visuelles de la campagne. Sur la vie musicale à Rome, Mendelssohn tempère son avis lorsqu'un jour débarque Hector Berlioz, qu'il ne comprend pas, dont il est opposé en tout musicalement, mais dont il saisit l'extravagance. À la Villa Médicis, Mendelssohn est subjugué par le directeur des lieux, le peintre Horace Vernet. Il vante son aisance inouïe, sa fécondité admirable, et montre la même admiration pour son père, Karl Vernet, et son grand-père, Joseph Vernet. Tous les jours, Mendelssohn va retrouver les artistes dans les ateliers de Cornelius, Cor, Overbeck. Et il adore lui-même travailler l'aquarelle. Je me suis remis à dessiner beaucoup et je commence même à faire des encres de Chine, écrit-il, parce que j'aimerais bien à me rappeler un ou deux effets de lumière qu'on voit d'autant mieux quand on est exercé. Un jour, après des mois de patience, il parvient enfin à visiter le palais de Zuccaro, dit Casa Bartholdi, décoré par des peintres allemands qui sont ses cousins germains, Philippe et Johann Veit. Le voyage d'Italie continue. Après Rome, Naples. Je veux dessiner chaque jour afin d'emporter avec moi les croquis des endroits dont je désire conserver le souvenir. Avec Félix Chadao, il va battre la campagne à la recherche du paysage rêvé. À Capri, Ischia et Procida, il est accompagné de deux autres peintres. Nous nous installâmes tous les quatre sous cette voûte, à l'abri de la pluie, et là, nous nous mîmes à dessiner la cour aussi artistiquement que possible, pendant toute la journée. Je ne me suis pas gêné du tout, j'ai constamment dessiné avec les autres, et je crois y avoir quelque peu profité. Après Naples, cap au sud, voici la côte amalfitaine. Son aquarelle, représentant Amalfi, avec la mer infinie à ses pieds et quelques colonnes antiques au premier plan, révèle une poésie, une fraîcheur et une délicatesse très personnelles. Son sens de la structure visuelle est convaincant et sa manière de rendre gracieusement tous les détails et les nuances de la ligne en font une de ses plus belles pièces. Quittant l'Italie, Mendelssohn passe par la Suisse. Et là, à nouveau, quelle merveille! Étant sorti pour prendre un croquis des montagnes, je trouvais un point de vue magnifique. Mais en ouvrant mon album, la feuille me parut si petite que je ne pouvais pas me résoudre à donner le premier coup de crayon. Et puis, comment rendre cette couleur splendide? Les lacs, les maisons de Berne, les sommets, les glaciers du Rhône. Tout cela l'enchante, avec à chaque fois l'envie de progresser. À Leipzig, enfoncé dans son fauteuil et tâchant de reproduire le clocher de l'église Saint-Thomas, Mendelssohn se rappelle avec émotion ses heures italiennes avec toute cette bande de peintres joyeuses, si jeunes, si bohèmes. « Voilà des amis fidèles », se dit-il. Peu après, d'ailleurs, il les a retrouvés à Düsseldorf, où tous sont venus assister à la création de son oratorio « Paulus ». À Leipzig, dans ses cartons, derrière les croquis et les aquarelles d'Italie, il a aussi retrouvé des carnets plus anciens rapportés d'Écosse. Plus laborieux peut-être, mais exécutés toujours avec précision et émerveillement. Et certainement pas dans le style de Turner, William Turner, son contemporain, qu'il déteste. Ces peintures, dit-il, ne sont qu'un gribouillage hideux. C'est auprès des peintres des académies de Berlin, Düsseldorf, Dresde, que Felix Mendelssohn a trouvé une forme d'idéal artistique, proche de ses préoccupations musicales. Souvent, il a fait appel à eux pour les pages de titres de ses œuvres. Hildebrandt, qui a peint le portrait du compositeur, a aussi réalisé l'illustration de son oratorio « Elias ». Car chez Mendelssohn, la peinture est toujours cachée là, quelque part, en secret. Sa grande sœur Fanny, sa chère Fanny, a demandé à son époux, Wilhelm Hensel, célèbre peintre de la cour de Prusse, d'illustrer ses partitions. Son épouse, Cécile Jeanrenaud, a été surnommée la déesse du silence, car elle était douée, elle aussi, de grands talents picturaux. Lorsque les jeunes mariés partent en voyage de noces en 1827, Hiller, fidèle ami du compositeur, rapporte « Cécile dessinait à ravir. Elle composa avec Félix un journal unique dans son genre qu'ils me permirent de voir à leur retour et dans lequel, outre leurs souvenirs de voyage, tous deux avaient consigné tour à tour des dessins, paysages, maisonnées, petites scènes auxquelles ils se trouvèrent mêlés. » À sa mort en 1847, il n'a que 38 ans, Felix Mendelssohn laisse quelques 300 dessins et aquarelles, le pendant visuel d'une musique limpide, sans nuages, celle du Mozart du 19e siècle, disait Schumann, celle qui révèle le plus clairement les contradictions de son temps et qui, le premier, les réconcilie.
Jérémy Rousseau, France Musique.
Mendelssohn se pique d'aquarelle. Profitons donc encore un peu de sa merveilleuse palette.
Steve. was wont to be. See as thou was wont to see. Dian's bud o'er Cupid's flower hath such force and blessed power. Now, my Titania, wake you, my sweet queen. Titania, music call, and strike more dead than common sleep of all these five the sense.
Music, ho! Music such as charmeth sleep.
Come, my queen, take hands with me and rock the ground whereon these sleepers be. Now thou and I are new in amity and will tomorrow midnight solemnly dance in Duke Theseus' house triumphantly and bless it to all fair prosperity. There shall the pairs of faithful lovers be wedded with Theseus all in jollity.
Fairy king, attend and mark. I do hear the morning lark.
Then, my queen, in silence sad, trip we after the night's shade. We the globe can compass soon, swifter than the wandering moon.
Come, my lord, and in our flight, tell me how it came this night that I, sleeping, here was found with these mortals on the ground.
Go, bid the huntsmen wake them with their horns. Joy and fresh days of love accompany your hearts. Lovers and madmen have such seething brains, such shaping fantasies that apprehend more than cool reason ever comprehends. For in the temple by and by with us these couples shall eternally be knit. And for the morning now is something worn, our purposed hunting shall be set aside. Away with us to Athens, three and three, we'll hold a feast in great solemnity.
Thank you.
Nous avons entendu de Mendelssohn des extraits du premier trio par le Beaux-Arts Trio, du Songe d'une nuit d'été par John Elliott Gardiner, Souleika par Barbara Bonnet et le Rondo Capriccioso par Javier Perianès. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr où vous pouvez également réécouter et podcaster ces émissions. Comme si vous y étiez est réalisé par Géraldine Prutner avec Cédric Chatelus, Jean-Michel Bernot, Véronique Cardiles et la collaboration de Fabien Flora et Xavier Carrère. Je vous donne rendez-vous demain à midi sur France Musique pour un nouvel épisode, Léo Delibes surpris en flagrant délit de filature.
À réécouter sur francemusique.fr.